Voilà pour le temps à venir de ce mardi. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
À 6h40, Jacques, vous vous intéressez au temps vécu.
Voilà, face à l'accélération des rythmes sociaux, un usage politique du temps vécu est envisageable, c'est ce qu'on va voir. Merci Clara Le Coq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
Tout à l'heure.
Le journal des idées, Jacques Munier.
La première génération d'ouvriers en usine avait été instruite par les patrons de l'importance du temps, écrit Edward Thompson, l'historien de la classe ouvrière anglaise. La deuxième génération avait organisé des comités pour ramener la journée de travail à 10 heures. La troisième génération faisait grève pour revendiquer la reconnaissance et le paiement des heures supplémentaires. Elle avait intégré la logique du patronat et appris à défendre ses droits dans le cadre de cette logique. Elle n'avait surtout que trop bien appris la leçon selon laquelle le temps c'est de l'argent. La dernière livraison de la revue Multitude est consacrée à la politicité du temps. Face à la discordance des temps née de la confrontation entre le temps court de la finance, l'obsession de l'instantané et le temps long des transformations socio-économiques, ou encore entre le temps de l'économie de marché et le temps de l'écologie, l'édito suggère comme un projet politique de déplier le temps. Dominique Royou fait le constat d'une profonde et inégale désynchronisation des temps sociaux. Les indicateurs révèlent une hausse continue depuis le début des années 90 de la flexibilisation des temps travaillés. Plus de 10 millions d'actifs en France, dont près de 3 millions de manière habituelle, travaillent soit la nuit, soit le samedi, soit un soir de la semaine, soit le dimanche. Les femmes en particulier subissent le temps partiel non choisi, les horaires imprévisibles d'une semaine à l'autre ou les astreintes assimilables ni à du temps libre ni à du temps de travail. Concrètement, le géographe suggère des pistes locales pour reprendre la main sur le temps vécu dans la perspective du vivre ensemble. La décentralisation et les pouvoirs accrus des collectivités locales permettent d'envisager des solutions dont les premières expérimentations de bureaux du temps dans plusieurs villes de France et d'autres pays européens préfigurent déjà l'horizon, comme les créations de guichets de services lors des rentrées scolaires pour éviter aux parents d'avoir recours à des services localisés en différents points de l'agglomération, des décalages d'horaires d'administration, des cheminements articulés entre les différents modes de transport, la fin de la concentration des crèches dans les villes-centres au détriment des espaces périurbains peuplés de familles. Bref, toute une série de mesures plus structurantes pour le vivre ensemble que les arrêtés anti-mendicité ou l'interdiction de pratiquer le skateboard. Dans la dernière livraison des actes de la recherche en sciences sociales, Adrien Clouet et Jean-Marie Pilon évoquent un autre genre de lutte pour la gestion de la ressource temporelle, celle que se livrent les agents de l'État et les chômeurs dans leur face-à-face au guichet de l'État social. C'est la course contre la montre à Pôle emploi. Sous l'effet des pratiques du nouveau management public, la compression algorithmique du temps au service de l'optimisation du travail est une réalité dans de nombreuses administrations, mais là, elle a des conséquences directes sur des interactions humaines concrètes. La variable temporelle, résument les sociologues, devient donc centrale pour optimiser les ressources humaine et implicitement, le raisonnement postule une docilité du public à l'égard du cadrage, ce qui ne va pas toujours de soi. Pour de nombreuses populations, Pôle emploi est en première ligne de l'action publique et souvent les chômeurs, pour se soulager ou susciter de l'empathie, racontent leur vie et leurs difficultés. Notamment les plus démunis qui tentent de compenser l'incertitude de leurs droits et la dépendance aux allocations par un rappel de leur mérite ou leur bonne foi. Face à cela, les conseillers sont tenus par des agendas électroniques où les prescriptions de réception sont formulées en minutes. La hausse du nombre des usagers et la stagnation des moyens humains rend cruciale la course au temps que se disputent les uns et les autres. Conclusion, pour des raisons morales liées aux soupçons d'oisiveté et gestionnaires liées au nombre d'usagers à traiter, le temps des chômeurs est construit comme un temps sous contrat. Autre conflit autour du temps, celui du repos dominical. Dans les batailles du dimanche, publié au PUF, Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard rappelle que le dimanche a longtemps dédié à l'assistance aux offices religieux a été transformé en un jour travaillé comme les autres par le 19e siècle industriel et que ce sont finalement les luttes pour l'amélioration des conditions de travail qui ont poussé l'ensemble des pays industrialisés à renouer avec la tradition du dimanche chômé. Prenant cette histoire à contre-pied, l'économiste Philippe Askenazy se demande aujourd'hui sur le site La Vie des Idées si l'ouverture dominicale des commerces ne permettrait pas paradoxalement de préserver les liens familiaux. bio, car la plupart des Français ne souhaitent pas travailler le dimanche, mais beaucoup voudraient bénéficier de plus de services ce jour-là. Avec le développement du commerce et des services en ligne, pas sûr que le raisonnement tienne longtemps.